Informer, comprendre, agir. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire pour la planète. C'est l'heure de la chronique environnementale avec Jean-Louis Caffier.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique environnementale. Aujourd'hui, cap sur notre territoire, le Loiret, pour évoquer un sujet aussi préoccupant que central, le climat. Comment évolue-t-il ici dans notre département? Quelles en sont les causes, les conséquences, mais aussi les leviers d'action possibles? Le Loiret n'échappe pas aux bouleversements globaux du climat, mais il en incarne aussi certains défis spécifiques. Canicules plus fréquentes, épisodes de sécheresse, biodiversité fragilisée. Dans cet épisode, Jean-Louis Caffier nous aide à y voir plus clair avec son regard éclairé et engagé pour mieux comprendre les mutations au cours et poser les bonnes questions pour demain. Eh bien bonjour Jean-Louis.
Bonjour Romuald, bonjour à tous.
Alors, tout d'abord, je voulais poser une question. Comment le climat a-t-il évolué dans le Loiret depuis ces dernières décennies?
Pas très bien, à l'image de ce qui se passe un peu partout dans le monde, et en France en particulier, où le réchauffement va plus vite qu'ailleurs. On a pris 2 degrés sur un siècle en France, alors que la moyenne mondiale est plutôt vers un 4, un 5 en ce moment. Et le Loiret est frappé de plein fouet, parce que on a des sécheresses. C'est la première cause, hein. À mon avis, la sécheresse, c'est très important. Mais il y a aussi des canicules, il y a aussi bien sûr les incendies de forêt, donc on est directement concerné dans le département du Loiret par le réchauffement climatique.
Pourquoi le Loiret est-il considéré comme un territoire particulièrement vulnérable au réchauffement climatique?
Mais on est dans le centre, comme le nom de la région l'indique. Alors on est quand même un petit peu plus loin de la Manche, des océans, on est un peu plus loin de la Méditerranée aussi, et donc les courants d'air qui ont tendance à refroidir l'atmosphère nous atteignent moins fort qu'en Bretagne par exemple. Hein. C'est à chaque fois pareil qu'il y a une tempête, on sait que ça va frapper fort en Normandie et dans l'Ouest, mais que ça va être atténué ici dans le Loiret. Voilà.
C'est dû à un dôme de chaleur, si on peut dire.
Oui, c'est ce qui s'est passé pendant la canicule. L'air reste un petit peu coincé parce que les mouvements d'air ne se font plus autour de cette chaleur qui a quand même concerné un territoire énorme. Il y a eu la France, bien sûr, quasiment dans sa totalité, dans métropole, bien sûr, mais il y a eu aussi des phénomènes équivalents en Angleterre, en Allemagne et dans le sud de l'Europe aussi, Espagne, Italie. C'est ça qui est surprenant dans ce qui s'est passé, c'est l'étendue du phénomène en plus de sa précocité. Parce que ça s'est passé au mois de juin quand même, on était à peine au début de l'été, et on a déjà une canicule à ce moment-là. Il faut rappeler qu'en 2003, la canicule monstrueuse qui avait fait 15 000 morts prématurés en France, il y avait eu un phénomène exactement équivalent avec un mois de juin très chaud. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une autre canicule au mois d'août aussi forte qu'en 2003, mais c'est un signe et ça fait partie de ces informations que les scientifiques analysent pour prévenir, pour dire attention, dans la deuxième quinzaine d'août, il peut y avoir ça ou ça, préparez-vous.
Et est-ce qu'on peut estimer un temps plus long par rapport à ces changements qui vont durer ou s'intensifier?
Oui. Le climat, c'est une pratique de temps long. Il faut être patient. Alors, les travaux du GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, le montrent bien. Il faut s'attendre à des augmentations qui vont continuer à sévir. Parce que le climat, c'est donc un temps long, je le disais. Le dioxyde de carbone qu'on émet aujourd'hui, il sera là encore en partie dans 10 000 ans. Encore, en petite partie, mais il sera encore là. Il sera là principalement dans le siècle qui vient, et on s'accorde dans les milieux scientifiques pour dire le dioxyde de carbone, en moyenne, donc c'est 100 ans dans l'atmosphère. Ça veut dire que ce qu'on a là, aujourd'hui, dans le Loiret et partout sur la planète, ce sont des émissions de gaz à effet de serre qui ont été faites entre les deux guerres, entre les deux dernières guerres mondiales. Vous vous rendez compte, le temps d'inertie qui est très important. Et ce qu'on peut affirmer, c'est que les vagues de chaleur et les canicules telles qu'on les a vues ces dernières semaines vont s'intensifier. Elles vont être plus intenses donc et plus nombreuses aussi.
Donc, quelles actions concrètes peuvent être mises en place localement pour atténuer les effets du changement climatique?
Alors, il y a plein d'opérations possibles, ça peut nous rassurer un petit peu. Les principales, il y a deux choses. Il y a l'atténuation, on essaie de limiter les émissions de gaz à effet de serre pour freiner le réchauffement climatique. Et puis, il y a l'adaptation, où on essaie de trouver des solutions ponctuelles sur le terrain pour atténuer les effets du réchauffement. Donc, en ce qui concerne l'atténuation, il faut absolument continuer. On doit s'occuper principalement des bâtiments. bâtiments, des transports, qui sont les deux premiers postes d'émission de gaz à effet de serre. Et puis sur l'atténuation, il y a plein de choses possibles. Il faut tenter de refroidir la température. On ne peut pas stopper le mouvement du climat à l'échelle locale, mais il faut tenter de refroidir. Et on le fait comment ? On a par exemple des moyens pour réfléchir les rayons du soleil, pour empêcher que ça s'intègre dans du béton ou dans des bâtiments en pierre pour être restitués la nuit. Donc ça signifie qu'on peut aussi localement travailler sur l'isolation. On peut travailler sur des zones végétalisées, c'est vrai, dans toutes les places qu'il y a dans les communes, dans les villages et dans le ville. Dans les villes, il ne faut pas croire que ça ne sert à rien. Hein. Végétaliser une place, ça peut permettre de gagner 2-3 degrés quand on a une vague telle que la canicule qu'on a subie. Et puis, il y a plein de choses possibles. Il faut faire attention. Il faut jouer avec les fenêtres. On les ouvre, on les ouvre pas. Avec les volets, on empêche la chaleur à travers la lumière de pénétrer dans les maisons, dans les appartements. Il y a plein de choses à faire. On peut mettre des ventilateurs. On peut aussi mettre de la clim, bien entendu. Mais bon, la climatisation, ça a aussi un coût énergétique. Ça rejette de l'air chaud dans l'atmosphère. Et puis, ça a une consommation électrique extrêmement importante. L'ensemble de la climatisation aux États-Unis, ça correspond à l'ensemble de la consommation électrique du continent africain.
Ah oui, quand même.
Alors qu'aux États-Unis, c'est 90% des bâtiments qui sont climatisés. Oui, oui, c'est beaucoup, c'est énorme, c'est énorme. Mais en même temps, si l'électricité est produite, comme en France, de manière décarbonée, avec le nucléaire et l'hydraulique, on est tranquille, on peut utiliser la climatisation sans risquer de mettre des gaz à effet de serre.
Y a-t-il des initiatives inspirantes déjà en cours qui se sont mises en place en rapport...
Au réchauffement ?
Oui, au réchauffement climatique.
Il y a beaucoup de travaux qui sont menés par les associations, notamment toutes les associations qui sont proches de la nature, de l'environnement, qui font un travail d'éducation qui est intéressant. Dans plein d'écoles, je ne peux pas en citer une en particulier, mais dans plein d'écoles du département et partout ailleurs, il y a des initiatives pour expliquer aux enfants ce qu'est la nature, ce qu'est le réchauffement climatique. Et ça, c'est très intéressant parce que les enfants, ils ont des parents, des grands-parents, et ils peuvent en parler avec eux ensuite. Ça sert vraiment à quelque chose.
C'est vraiment un sujet d'actualité. Et puis même les jeunes... pour participer, pour les sensibiliser,
ben oui.
À cet âge-là, c'est forcément anticiper aussi pour le futur.
Oui, oui, c'est ça. Mais eux vont connaître le réchauffement climatique toute leur vie. Hein. Nous, on le découvre là petit à petit. Bon, moi, je suis déjà un peu âgé. Mais les enfants, ils vont vivre ça en permanence. Il faut bien se dire que les changements liés au réchauffement climatique, ça ne va pas seulement être une vague de chaleur comme on l'a eu, même si ce n'est pas toujours agréable. Ça va avoir des conséquences sur l'eau, beaucoup, donc sur l'agriculture, donc sur l'alimentation. Il y a plein de choses en cascade qui vont se dérouler. Et notre vie doit changer, elle doit s'adapter. Si on ne décide pas de nous adapter à ce qu'amène le réchauffement climatique, c'est le réchauffement climatique qui va nous obliger à le faire, et ce sera beaucoup plus violent et beaucoup plus cher.
Je pense qu'on a dû faire un petit peu près le tour de ce qu'on a pu échanger par rapport au réchauffement climatique. Oui. Y a-t-il d'autres solutions ou d'aménagements, que ce soit au niveau du territoire, comme l'usage d'eau, l'agriculture, l'urbanisme ?
Oui.
Moins consommer forcément pendant les périodes de pic de chaleur, et
oui.
Puis aussi forcément un peu réduire, restreindre.
Oui. Mais il va sans doute falloir revoir beaucoup de choses. Hein. Prenons par exemple le sport. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire du Tour de France, la montée de l'Alpe d'Huez par 45 degrés ?
Je suis pas trop sûr.
Ben non, mais on a raison de se poser la question. Il y a déjà, j'ai vu pour la Ligue de première division de football en France, il va y avoir des pauses fraîcheurs tout au long de la rencontre. Il va y en avoir 2 ou 3 ou 4, je sais pas, où on s'arrête pour s'hydrater, pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Mais si ça continue, si on a des 50 degrés comme c'est possible en 2050, hein, ce que disent les scientifiques aujourd'hui français, c'est que 50 degrés dans l'est de la France et dans le nord, parce que c'est pas forcément dans le sud que ça va le plus progresser, c'est tout à fait envisageable. Pas en permanence, évidemment, mais oui. Des pointes.
Mais ça va être dans des pointes.
Donc ça va changer tout, ça va changer aussi le tourisme. On pourra plus faire tout à fait la même chose. Ceux qui veulent faire du canoïing dans telle ou telle gorge française, il faudrait qu'il y ait de l'eau. Il faudrait qu'il y ait de l'eau l'été. Et il n'est pas sûr qu'il y en ait suffisamment pour pratiquer ce type de sport.
Oui, c'est sûr. Surtout si on habite loin des bords d'eau, forcément, c'est compliqué. Oui.
Mais nous, on est contents à Gien, Briare, dans le Loiret, d'avoir une possibilité de tourisme cycliste.
Effectivement, oui.
Est-ce qu'on va continuer pareil avec 40-45 degrés à faire du vélo sur la Loire à vélo? Ben, il faut se poser la question.
Ou peut-être permettre à des lieux un peu plus rafraîchissants comme les forêts ou même...
Voilà. Ça peut faire partie des solutions.
Je pense notamment au port au bois.
Bien sûr.
Forcément, avec les arbres, je pense que ça peut être une très bonne solution.
Mais il faut que les responsables réfléchissent à ça à l'échelle de 15-20 ans. Hein. Si on doit créer des équipements, je ne sais pas moi, un lieu d'accueil pour les touristes cyclistes, par exemple, X ou Y, il faut savoir que les cyclistes, ils auront peut-être comme premier besoin d'avoir de la fraîcheur, de se poser, de se rafraîchir.
Quoi. Il faut toujours anticiper. Avant qu'on tire l'alarme d'urgence, forcément... Il faut anticiper tout ça en avance avant que forcément on arrive au point culminant.
Ben là, on a les informations. Hein. 2060, ça c'est un travail qui est mené par le GIEC et puis par la DREAL, donc la Direction Régionale de l'Environnement, ici dans le Loiret, pour la région Centre. À l'horizon 2060, de plus 16 à plus 50 journées chaudes par an, en moyenne. De 16 à 50 en plus, en fonction des années. Plus 33% d'épisodes de canicule. Moins 13% de précipitations l'été, et puis des risques d'incendie comme ceux qui existent aujourd'hui dans les Landes. On aura exactement le même degré de risque que ce qui se passe aujourd'hui dans la forêt landaise.
Ah oui.
Voilà, c'est ça qu'on nous annonce, donc c'est ça qu'il faut essayer d'anticiper, et évidemment.
Et oui, c'est très urgent dès à présent, donc forcément il faut tout anticiper et mettre en œuvre pour que on évite petit à petit ces genres de conséquences.
Oui.
Merci Jean-Luc Caffier pour cet éclairage précieux sur les enjeux climatiques dans notre territoire. Le climat change, c'est une réalité qu'on ne peut plus ignorer, même ici dans le Loiret, mais face à l'urgence, il y a aussi de l'espoir, des solutions et surtout des engagements possibles à notre échelle. Restez à l'écoute sur Studio 45 pour continuer à mieux comprendre le monde qui nous entoure et comment agir ensemble. À très bientôt pour une nouvelle chronique environnementale.